inédit de la Grande Guerre.
40 épisodes collectés par les archives départementales de la Côte d'Or
et lus par leur directeur, Édouard Bouillet.
Épisode 35.
Fantasmagorie.
Peut-on trouver une certaine beauté, visuelle et sonore, au spectacle de la guerre? Cela semble bien difficile à admettre. Pourtant, certains soldats, dans leurs notes personnelles, ne sont pas insensibles au spectacle des fusées éclairantes et des avions. Le capitaine d'artillerie Bélorget, dont le ton se fait parfois lyrique, voire épique, note fin septembre 1915.
La nuit vient. Le spectacle que fournit la ligne de feu est grandiose. De tous côtés s'élèvent des fusées qui font au firmament comme autant de grosses étoiles et qui, par instant, lorsqu'elles se trouvent en plus grand nombre, éclairent l'horizon sombre d'une lueur verdâtre qui permet d'apercevoir vaguement le contour du terrain. Le spectacle devient encore plus fantastique quand de tous côtés s'élèvent du sol des lueurs rouges ou violettes qui semblent autant d'éclairs lointains au moment où les grosses pièces exécutent des tirs rapprochés. De distance en distance, au milieu du bruit infernal que font nos canons en tirant, on distingue des éclatements d'un son caractéristique. Et ainsi toute la nuit, la chanson de mort va continuer alors que dans le lointain, en écho assourdi et précipité, roule le flot des feux de salve que cadence le tac-tac des mitrailleuses. Et pendant ce temps, dans les replis des vallées que la lune inonde de sa blonde lumière, les régiments défilent silencieusement. Fantassins, le regard fixé vers l'horizon en feu, artilleurs nonchalants sur leurs chevaux tendus dans les traits, ils vont, tels des fleuves à la mer, se mêler au grand flot mugissant qui bat la grève de ses coups de bélier.
Il écrit encore 10 jours plus tard.
La journée est belle, soleil splendide. À une heure, bien haut dans le ciel, passent 20 avions. Leur fuselage blindé brille. Sous les rayons lumineux, les ailes paraissent translucides. Le bruissement des moteurs à peine perceptible. On dirait un essaim d'abeilles, ou mieux, de libellules légères. Le soir, nous apprendrons que ces insectes jolis reviennent de bombarder les lignes allemandes.
Le capitaine Bélorget sait qu'il ne montera pas à Verdun, mais qu'il restera quelques centaines de mètres en arrière pour pilonner les lignes allemandes. Le 21 octobre 1916, juste avant la reprise du fort de Douaumont à Verdun, il écrit ces lignes.
Il pleut, et dans la boue gluante, nous roulons pour nos ravitaillements. Le soir, c'est une vraie tempête, et cependant le jour de l'attaque approche. Pauvre fantassin, ce soir je viens d'en voir passer des filets inénarrables, poignants, des bataillons qui vont aux tranchées d'assaut. Les hommes sont surgis de l'ombre, brusquement éclairés par la lumière blafarde de mes phares. Je vois leurs faces graves sous l'averse, leurs uniformes couverts de boue. La boue s'est plaquée à leur capote, à leur sac. Elle a garni leurs jambes de la lourde botte de ses mottes brunes. Leurs sacs trop lourds tirent sur leurs épaules qui remontent. Le casque se rejette en arrière de leur tête penchée. Leurs musettes gonflées, la boîte de leur masque bat sur leur côté à chaque pas. Dans les rangs, quelques éclairs, canons de fusil ou acier des gamelles. Derrière, les mulets tirent les mitrailleuses, K1, K. En avant, les officiers à peine reconnaissables, mais si stoïques et si beaux. Pour rendre le tableau plus épique, dans la rafale du vent, au-dessus des arbres mutilés qui gémissent, passe en trombe, dans l'obscurité opaque, un avion invisible. Au-dessus des têtes, son moteur halète, puis son ronflement se perd dans l'espace, et il n'y a plus que le canon qui hurle, le canon vers lequel vont, avec leurs jambes lourdes, sans un murmure, tous ces petits soldats de France, splendides dans leur stoïcisme.